matin à voir un petit peu l'anti-Pentecôte et nous terminerons par la Pentecôte. Alors on va lire dans Genèse chapitre 11, versets 1 à 9, pour lire le récit de la tour de Babel. Et je le disais, c'est un peu l'anti-Pentecôte, le contraire de la Pentecôte. Genèse chapitre 11, verset 1er. Genèse, chapitre 11, verset 1er. Vous y êtes? Alors nous lisons. « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques. » Et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville, et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage. » afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Donc il est question de cette civilisation d'après le déluge qui a voulu construire une ville et une tour. On peut être étonné que les hommes soient ainsi rassemblés, qu'ils étaient si peu nombreux, mais on se rappelle que les hommes avaient été détruits par les eaux du déluge. Et on estime à un siècle après le déluge aurait eu lieu la tour de Babel, sans certitude néanmoins sur la datation. Mais on peut comprendre que ces hommes qui avaient réchappé du déluge grâce à Noé et à sa descendance, eh bien, étaient si peu nombreux et pouvaient se retrouver ainsi tous ensemble. Enfin, l'être humain, il est incurable quand même. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais et méchant, qui peut le connaître? Il est incurable. Parce que l'humanité venait d'être jugée par les eaux du déluge et il recommence à s'assembler dans l'impiété. Terrible cela. C'est pour cela qu'après au chapitre 12, Dieu ne choisira plus tous les hommes, mais un seul, Abraham. Abraham pour qu'il soit l'ancêtre de Jésus-Christ et c'est lui qui serait le sauveur de l'humanité. Parce qu'en fait, tant que c'est parti des hommes, ça a toujours échoué. La seule solution, c'est qu'il y ait l'homme-Dieu, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, par lequel, alors, toute l'humanité pourrait être sauvée. Alors, on constate d'abord que c'est une population nomade, en voyage, qui est partie de l'Est. La Bible nous dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Cette population était errante et a voulu à un moment donné se fixer et pas n'importe où. Ils ont voulu se sédentariser, comme l'on dit, s'établir dans le pays de Shinéar. Le pays de Shinéar, c'est là où même plus tard, Corée va avoir envie d'un manteau et le cachera sous sa tente. Oui, Dans ce symbolisme, le pays de Shinéar, ça nous parle du monde, de l'amour du monde. Ils veulent s'établir là. Il paraît que c'était une plaine extraordinaire, une plaine très fertile, comme un jardin. C'est l'essai de revenir au jardin d'Éden, mais sans Dieu. Ce serait le jardin d'Éden des hommes. Et ils veulent s'établir, se fixer. Et ils ont un projet. C'est un peu la tendance de chacun d'entre nous de vouloir réussir dans ce monde. S'y fixer, s'y établir. Et y trouver des amis pour pouvoir réussir sa vie. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont un projet commun. Construire une ville avec une immense tour. Construire une ville avec une immense tour. L'homme est bâtisseur. Nous ne savons pas rester à rien faire. Nous avons souvent des projets pour remplir notre vie, pour essayer d'aller de l'avant, pour donner un sens à notre existence. Ils veulent bâtir une ville avec une grande tour. Ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. On parle des gratte-ciel. Et toutes les grandes villes de notre monde rivalisent de hauteur avec des gratte-ciel les plus époustouflants. Même les récents pays pétroliers qui ont bâti des villes sur le désert, quel miracle quand même! De telles villes sur le désert ont des gratte-ciel impressionnants. L'homme aime ce qui impressionne. Il a toujours essayé de marquer son temps, d'avoir de grands projets. Nous avons eu un président de la République qui a lancé les grands projets en son temps dans les années 80. Et il y a eu ainsi bien des choses qui se sont faites. Ce qui est curieux, c'est que c'est en pleine construction que tout va mal se terminer. Alors je n'ai pas toutes les explications, mais il n'est pas rare que des maisons à peine construites, ou même pas finies d'être construites, soient mises en vente parce que les gens divorcent. Ils avaient choisi leur terrain, comme ils ont choisi le pays de Shinéar. Ils ont choisi leur architecte, leur constructeur. Tout allait de l'avant. Et malheureusement, si les briques, si les parpaings, eux, étaient de bonne qualité, la famille, le couple, pas toujours. Et n'a pas été rare que des projets se terminent mal. C'est arrivé aussi même que des églises, c'est curieux cela, après avoir eu des projets de construction ou autre, se soient divisés. Ça peut arriver aussi que des parents décident de faire un enfant et peu de temps après, ils se séparent également. Curieux. Pourquoi ? Pourquoi un projet qui était censé les unir, au final, les a divisés ? Parce que c'est une erreur de croire que de faire un enfant va réparer un couple. Parce que c'est une erreur de croire d'une façon générale que d'avoir des projets va nous unir. Il faut beaucoup plus que cela pour être véritablement unis. On peut faire des choses ensemble sans vraiment être unis. Parce que si Dieu n'est pas le but de notre projet, rien ne sera solide. Et nous serons peut-être étonnés du mauvais résultat. Votre vie, chers amis, c'est normal que vous vouliez vous lancer dans des constructions, dans des projets. Mais si le Seigneur n'est pas le but de votre vie, ce que vous aurez fait, peut-être ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, a échoué. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, quelque part, construire une ville, faire une tour, on aurait pu dire, pourquoi pas, mais l'intention était mauvaise. C'était de se faire un nom, de se rendre célèbre. Et dans le refus de ce que Dieu avait dit, multipliez-vous. Remplissez la terre, Trois fois il l'a dit, deux fois à la Genèse, une fois après le déluge, après Noé. Et au lieu que les hommes s'éparpillent sur la terre et la remplissent, ils voulaient se centraliser et s'unir, profitant de la compréhension qu'ils avaient par une langue commune. Est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui encore ce phénomène de la mondialisation ? C'est incroyable que ce qui est très moderne est en fait très vieux, très ancien. Ce désir d'être tous ensemble, de se comprendre pour faire quelque chose de grand en défiant Dieu est quelque chose qui est inscrit dans la nature humaine, dans la nature humaine. C'est déjà l'humanisme au tout début de la Genèse. L'homme, l'homme, l'homme. C'est déjà le 666, c'est déjà le chiffre de la bête, le chiffre de l'homme. C'est déjà cette idée qu'un jour, les hommes recommenceront à tous s'unir et à parler le même langage pour faire quelque chose de grand en oubliant Dieu. Et de la même façon, à ce moment-là, Jésus reviendra. Il descendra du ciel comme Dieu est descendu ici et il mettra fin, il mettra un terme au projet humaniste de la dernière société avant son retour. Alléluia. D'ailleurs, Jésus a dit que son retour sera une époque qui ressemblera à l'époque de Noé qui était déjà avant la construction de Babel, comme quoi ce qui est futur en fait est passé. L'Ecclésiaste dit: il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est la quête de la célébrité et de la sécurité. Ils veulent se rendre célèbres dans le but de ne pas être dispersés. C'est la sécurité. La Bible dit, quand les hommes diront paix et sécurité, une ruine soudaine les surprendra. Comment trouver dans la vie la sécurité sans Dieu ? La vie éternelle, seul Dieu peut nous la donner. Et il n'y a point de sécurité et de paix en dehors de lui. La célébrité, chercher le renom. Dans la Bible, un seul est digne de gloire et d'être glorifié. C'est Dieu. Il faut tout simplement que nous reprenions notre place d'hommes, d'êtres humains. D'ailleurs, dans ce passage, il est question des fils d'hommes. Des fils d'hommes, hein, au verset 5, la tour que bâtissaient les fils des hommes. Nous ne sommes que des fils d'hommes. Dieu est Dieu. C'est à lui que revient la gloire. Ne cherchons pas à nous élever. L'archéologie nous a déterré ces anciennes grandes tours que l'on appelait des ziggourats. Et ce que l'on a appris, c'est qu'au sommet de ces ziggourats, il y avait des autels en l'honneur de faux dieux. C'est un peu comme d'ailleurs dans notre pays, souvent des églises catholiques sont bâties sur les collines, au sommet. À Athènes, hein, le panthéon des dieux, bien Zeus est au sommet d'une colline. C'est dans la nature humaine depuis longtemps d'essayer d'élever des lieux pour y adorer des faux dieux. Pour nous, notre Dieu, nous ne croyons pas qu'il faille l'adorer quelque part particulièrement. C'est par l'esprit et en vérité. Cette tour de Babel était donc vraiment quelque chose de païen, quelque chose d'hostile à Dieu. Et c'est vraiment vivre dans l'entre-soi. Je crois qu'il faut prendre garde à cet esprit du monde. L'Église, nous voulons la bâtir pour Dieu. Nous voulons qu'elle s'élève pour être un temple saint pour le Seigneur. Et ne pas essayer d'être unis pour être entre nous, dans l'entre-soi. Ce qui compte prioritairement dans l'Église, dans la construction de l'Église, ce n'est pas nous, c'est Dieu, pour qu'il soit glorifié. Bien sûr, ici, c'était non pas le projet de bâtir une Église, c'était le projet de bâtir une société humaniste. Et idolâtre en même temps, parce que les deux ne s'opposent pas. Je ne crois pas que dans l'avenir, l'humanisme détruira les religions. Il y a le faux prophète, dans l'Apocalypse. Les deux iront ensemble. Les fins des temps seront caractérisées et par l'humanisme et par l'idolâtrie, c'est-à-dire les religions, bien sûr. Les deux ne s'opposent pas. Et ils voulaient bâtir cette sorte d'humanité. Nous, c'est de l'Église dont nous parlons. Mais nous pouvons, sans nous en rendre compte, avoir des principes similaires. C'est-à-dire vouloir être unis pour nous faire un nom, pour nous-mêmes et pour nous sécuriser, pour chercher la sécurité. Nous ne voulons pas nous unir entre nous, pour nous. Nous voudrions plutôt vivre l'Église pour Dieu. Le but, c'est qu'il habite au milieu de nous. C'est qu'il revienne au milieu de nous. C'est qu'il y établisse sa présence. Le but, c'est que nous soyons ensemble réunis autour de lui. Là où deux ou trois sont assemblés, non pas en leur nom, non pas pour leur nom, mais là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Et quelle différence. Pourtant, il n'y a que peu de mots qui changent entre être assemblé en notre nom, pour notre nom, et être assemblé en son nom. Amen. Et c'est le but de nos rassemblements, c'est de nous réunir au nom de Jésus-Christ. Alors ça, c'est la première partie, la partie des hommes. Et puis la deuxième partie, c'est quand Dieu intervient, c'est la partie de Dieu. Tout d'abord, il est dit que Dieu descend. Dieu descend. Alors comme quoi, Dieu est bien plus grand que la plus haute des tours. Parce que pour voir la plus haute des tours, Dieu doit descendre. La Bible est appelée dans le Dieu, pardon, est appelé dans la Bible, et plus de 20 fois dans les psaumes notamment, le Dieu très haut. Alléluia. Le Dieu très haut. Jamais les hommes ne pourront même atteindre son marchepied. Dieu doit descendre. Et puis c'est un arrêt de l'escalade. Il est dit, descendons, confondons leur langage. Et pourquoi ? Parce que maintenant rien ne l'empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. En fait, une autre traduction rend quelque chose de différent. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Vous comprenez ? C'était qu'un début. Cette tour de Babel, c'était qu'un début. Ça aurait été de plus en plus loin. Et Dieu est intervenu pour stopper ce processus infernal qui aurait fait qu'on en aille de pire en pire. Quand Dieu nous arrête, quand Dieu fait échouer nos projets, ce n'est pas par méchanceté, c'est par bonté. Parfois, on ne comprend pas pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi cette fille m'a abandonné? Pourquoi ce garçon est parti? Pourquoi j'ai perdu cette grosse somme d'argent? Pourquoi j'étais bien parti pour avoir ce travail et le poste a été donné à une autre personne? Parce que Dieu sait là où ça vous aurait amené. Cette tour de Babel, Dieu savait qu'après, rien ne pourrait plus empêcher les hommes de faire tout ce qu'ils concevaient. Dieu sait ce qu'il fait dans nos vies. Nous ne savons pas l'avenir. Dieu seul connaît l'avenir. Et vous pouvez essayer d'aller voir des gens qui prédisent l'avenir. Vous savez, l'homme ne connaît pas l'avenir. C'est l'Ecclésiaste qui le dit et le répète tout au long de son livre. L'homme ne sait pas ce qui est devant lui. Dieu sait toutes choses. Vous savez, ce qui va caractériser les temps de la fin, c'est l'accélération. Dans ces temps, dit Dieu, je hâterai ces choses. C'est l'accélération. Il n'y aura plus de frein. À Babel, Dieu a freiné, Dieu a stoppé. D'ailleurs, comme le déluge, pourquoi une telle destruction? Ce n'était pas pour tout détruire, c'était pour tout recommencer par Noé. Dieu n'est pas le Dieu de la destruction, il est le Dieu du redémarrage, le Dieu de la rédemption. Et dans ce passage, en Babel, Dieu a stoppé pour freiner. Ce n'était pas le moment, il fallait encore donner du temps. Mais dans les derniers temps, celui qui le retient disparaîtra, dit l'apôtre Paul, au sujet de l'Antichrist. On voit bien que dans les derniers temps, les freins seront enlevés par Dieu. Que les choses ne seront plus empêchées. Ne trouvez-vous pas que cela va de plus en plus vite actuellement? Et que l'humanité est de moins en moins freinée. Les ziggourats, ça nous fait rire aujourd'hui. Leur hauteur, les appartements sont plus hauts. Ce que l'homme construit est beaucoup plus haut. Et cela continuera de pire en pire. Parce que, à un moment donné, Dieu livre les hommes à eux-mêmes. Alors, cher ami, si tes projets ont échoué, c'est pour que tu te tournes vers le Seigneur, que tu comprennes que c'est parce que ça aurait été pire si ça avait marché. Et rien n'aurait empêché la dégringolade et la ruine de ta vie. C'est pour te sauver que Dieu t'a résisté. Alléluia. Nous ne le comprenons pas toujours, même nous les chrétiens, loin s'en faut. Mais c'est bien souvent après coup que l'on dit, mais au final, le Seigneur a bien fait les choses. Il fait toujours bien les choses. Amen. Ne plus comprendre est le résultat d'un jugement de Dieu. Ne plus se comprendre. Les hommes se comprenaient tous. Et quand Dieu est descendu, il ne les a pas détruits, il ne les a pas combattus, il les a embrouillés. Quand il y a de l'embrouille, c'est pas bon signe. La confusion, ne plus se comprendre, a été un signe du jugement de Dieu. Les hommes, depuis, peuvent même jusqu'à aller s'entretuer. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Ce qui caractérisera aussi l'humanité de la fin des temps, c'est que les hommes se haïront les uns les autres, seront ingénieux au mal, se feront du mal. C'est sûr et certain que le jugement de Dieu s'exprime par l'hostilité que les hommes peuvent avoir entre eux. Ce n'est pas le plan de Dieu pour l'Église. L'apôtre Paul parle d'avoir une même pensée. Nous le verrons tout à l'heure. Dieu voudrait que nous parlions la même langue, que nous nous comprenions les uns les autres. C'est frappant de voir cela, et même tout au long de l'Ancien Testament, quand Dieu agissait contre les ennemis d'Israël, il les divisait. Et parfois, les ennemis d'Israël se retournaient l'un contre l'autre et s'entretuaient par l'épée ou par d'autres moyens. Ce n'est pas qu'à Babel, où quand Dieu agit parfois, il divise les hommes. Mais ce n'est pas son plan pour nous. Babel, ça veut dire confondre. Un proverbe dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ils avaient beaucoup de projets, mais c'est Dieu qui a eu le dernier mot. Et dans nos vies, ça sera toujours comme cela. Amen. Laissons-nous conduire par le Seigneur. Plutôt que d'avoir des projets insensés, personnels, au fond, bien souvent sans que nous ne le réalisions pour notre gloire personnelle, notre renom. Babel, en fait, c'est Babylone. Ça changera de nom, mais c'est la même chose. C'est Babylone, c'est au même endroit, c'est le même lieu. Et Babylone, à la fin de l'Apocalypse, sera jugée comme Babel au début de la Genèse. Et la Bible dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Babylone, Babel, je l'ai dit tout à l'heure, Shinéar, c'est notre monde actuel. Et la Bible nous demande de sortir du monde si nous ne voulons pas périr avec lui. Dans notre monde, actuellement, on essaye, vous le savez, avec Google et d'autres, de réussir à avoir une technologie suffisamment avancée pour qu'avec petits moyens électroniques, on puisse avoir un traducteur universel. C'est en route, c'est dans les laboratoires, pour qu'on puisse tous se comprendre. D'ailleurs, certains disent que dans l'avenir, les métiers d'interprète n'existeront plus grâce à cette technologie. C'est le même but, c'est de se réentendre, d'avoir le même langage, mais sans Dieu. Ils n'y arriveront jamais, parce que l'entente et la fraternité ne peuvent se trouver qu'en Jésus-Christ. Alléluia. Alors on va lire justement Actes chapitre 2, versets 1 à 13. Après avoir lu l'anti-Pentecôte, on va lire la Pentecôte. Parce que vous verrez qu'il y a une grande ressemblance. Actes chapitre 2, bien que ce soit opposé en même temps. Actes chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue. Alors, vous voyez, confondue comme Babel, confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus d'Europe, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, elle leur parla en ces termes, « Amen. » J'arrête là parce que ensuite c'est toute l'explication que Pierre donne dans sa prédication. Alors, c'est le même départ qu'à Babel. La Pentecôte a le même départ. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Comme les hommes de Babel qui étaient tous ensemble pour s'établir au pays de Shinéar. Ils étaient là aussi, ici, tous ensemble dans le même lieu, mais c'est dans une toute autre intention. À Babel, c'était d'être ensemble pour se faire un nom. À la Pentecôte, ils sont ensemble pour prier le nom de Jésus. À la Pentecôte, ils sont ensemble pour honorer Dieu, pour attendre le Saint-Esprit, parce que Jésus leur avait promis, leur avait dit d'aller à Jérusalem et de prier et d'attendre ce que le Père avait promis. À Babel, ils sont réunis pour construire, pour faire. À la Pentecôte, ils sont réunis pour prier et pour attendre. Alléluia. Alors, un petit conseil, dans votre vie, au lieu de vous agiter et de toujours vouloir faire, arrêtez-vous et attendez que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guide, que Dieu vous enrichisse de son esprit. Alléluia. Il y a des fois, plus on va essayer de faire, pire ça va faire. Il vaut parfois mieux simplement prier. Deuxièmement, comme à Babel, Dieu descend. Alléluia. Dieu le Saint-Esprit ici. À Babel, Dieu descend. Ici, le Saint-Esprit descend du ciel sous la forme de langue de feu et se pose sur chacun d'eux. Gloire à Dieu. Mais là encore, cela n'a pas le même résultat. Cela a un résultat inverse. Tout le monde comprend. À Babel, quand Dieu est descendu, plus personne ne se comprenait. À la Pentecôte, quand l'Esprit descend, tout le monde comprend ce qui est prié. Et ils entendent tous les merveilles de Dieu. Alléluia. À Babel, c'est le renom de l'homme. À la Pentecôte, ce sont les merveilles de Dieu. C'est la gloire du renom de Dieu. Alléluia. Oui. Quand l'Esprit de Dieu descend, c'est pour nous faire glorifier le Seigneur et non plus nous-mêmes dans notre vie. C'est l'inverse de la confusion, bien qu'il soit confondu par l'émerveillement de l'unité. Alléluia. Les hommes désunis sont unis par le Saint-Esprit. L'Église. Dans Éphésiens chapitre 4, est présenté, uni par le Saint-Esprit, puisqu'il y est question de l'unité de l'Esprit, qui doit être préservée par le lien de la paix. Amen. La vie de l'Esprit, c'est la vie de l'entente, c'est la vie du vivre ensemble. La vie de l'Esprit, c'est la vie qui nous permet de se comprendre les uns les autres. La vie de l'Esprit, c'est la vie d'une société nouvelle et différente dans laquelle les hommes se comprennent et disent les merveilles de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu est un esprit d'unité. Alors étonnement, certes, émerveillement, oui, mais aussi moquerie. Moquerie de ce que Dieu fait. Il y a deux réactions différentes. L'Évangile, c'est une odeur de vie ou c'est une odeur de mort. Et je voudrais peut-être prévenir quelqu'un qui est touché par le Seigneur, qui veut s'approcher du Seigneur, qui lui est émerveillé par ce qu'il découvre. Dieu, son esprit, la vie éternelle, pardon des péchés, c'est un émerveillement, mais d'autres se moqueront de toi. Est-ce que tu veux quand même suivre le Seigneur? Même devant l'évidence, même quand des langues de feu sont descendues du ciel, quand des gens ont été remplis du Saint-Esprit, quand d'une façon miraculeuse, des langues qui ne pouvaient pas être comprises, bien, ont été entendues par tout le monde. Même là, il y a eu des gens qui ne voulaient pas croire. L'incrédulité, ce n'est pas une impossibilité de croire. C'est une mauvaise volonté, l'incrédulité. L'incrédulité, c'est la décision de ne pas croire. C'est même devant l'évidence. La Bible nous dit que si les hommes ne croient pas, c'est à cause de l'endurcissement de leur cœur. Si quelqu'un ne croit pas, ce n'est pas parce qu'il n'en a pas la capacité, ce n'est pas parce qu'il n'en a pas le pouvoir. Personne ne sera perdu parce qu'il n'avait pas la possibilité de croire. Mais l'incrédulité, en fait, trouve ses racines dans la dureté du cœur, dans la mauvaise volonté de l'être humain. Alors, il y aura toujours des incrédules et des croyants. Mais heureux l'homme qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs. Amen. Laisse-les se moquer. Laisse-les se moquer de toi. Prie pour eux. Mais toi, dis les merveilles de Dieu. Alléluia. Sauve ton âme, parce qu'au jugement dernier, ils ne pourront rien pour toi. Sauve toi de cette génération perverse et corrompue. Vient ensuite l'explication de Pierre, que l'on n'a pas lu parce que ça aurait été trop long, c'était tout son message, mais en fait c'est un message explicatif, parce que les gens sont certes émerveillés, ils voient qu'il y a là quelque chose de Dieu, quelque chose de grand, mais ils n'y comprennent pas grand chose. Et ça, c'est important, l'Église, c'est important. Même si on fait des expériences avec Dieu, on a besoin de l'explication de la parole de Dieu dans l'Église. Dieu agit d'une façon puissante et étonnante, mais il a fallu un prédicateur qui explique aux gens et qui leur permette à eux, à leur tour, de croire en Jésus-Christ. Il y a ce que Dieu fait, mais vous ne pourrez pas vivre avec Dieu sans Église. Vous aurez besoin d'explications, vous aurez besoin de comprendre. Et c'est dans l'Église, par la prédication, par l'enseignement de la parole de Dieu, que vous pourrez comprendre et avancer dans votre foi. Alors, c'est un message qui explique, qui dit, en gros, que c'est Jésus-Christ qu'ils ont crucifié, que Dieu a ressuscité, qui a été glorifié, et c'est lui qui vient de répandre le Saint-Esprit. Alléluia. En d'autres termes, si l'Esprit est descendu, en résumant le message de Pierre, si l'Esprit est descendu, c'est parce que Jésus-Christ est monté d'abord tout en haut. Et là, c'est une différence avec Babel et une ressemblance. Cette tour qui avait pour but de toucher le ciel s'est effondré, parce que jamais l'homme, avec ses religions, ses philosophies, son humanisme, sa technologie ou sa puissance, ne pourra atteindre le ciel. Jamais. Mais il y en a un qui est allé beaucoup plus haut que la tour de Babel. Beaucoup plus haut que cet autel païen au sommet de cette tour. Il y en a un qui a traversé les cieux et qui a atteint le trône même de Dieu. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Et c'est parce que lui a fait ce que la tour de Babel a échoué. C'est parce que lui a réussi que Dieu a pu descendre par son esprit en bénédiction et non pas en jugement comme en Babel. Parce qu'en Jésus-Christ, il y a la bénédiction. La Bible nous dit que pour être sauvé, que pour prier, que pour s'approcher de Dieu, que pour avoir la bénédiction, c'est toujours au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Loué soit Dieu. S'approcher de Dieu au nom de la tour de Babel, au nom d'une religion, ça s'effondre. Les religions s'effondreront tous quand Jésus-Christ reviendra. Mais s'approcher dans le nom de Jésus qui a traversé les cieux et qui maintenant est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux, alors là, nous sommes assurés d'être protégés en Jésus-Christ et d'avoir sa bénédiction. Alléluia. Oui. Et tout cela, donne aussi un résultat merveilleux. Ce sera notre conclusion. On va lire les versets 38 à 47, si vous voulez bien, chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous. C'est à la fin de sa prédication, à la fin de cette explication, acte 2, 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Voilà le beau résultat de ce jour de Pentecôte, qui est la réponse de Babylone. C'est comme si en acte chapitre 2, on tournait la page de Genèse 11 pour y trouver l'antidote, pour y trouver le remède en fait. Hein, la Pentecôte est le remède de la tour de Babel. Et on voit ici que cette promesse, elle est pour tous ceux qui sont au loin. On l'a lu, pour tous ceux qui sont au loin. À Babel, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont refusé de se disperser et c'était l'entre-soi. Ici, le don du Saint-Esprit, c'est pour tout le monde jusqu'aux extrémités de la terre. Pour tous ceux qui sont au loin, non seulement au loin géographiquement, mais même au loin d'un point de vue du temps, pour toutes les générations à venir. N'oublions pas les âmes perdues. Amen. Si l'Esprit de Dieu a été répandu dans nos vies, c'est pour qu'il le soit aussi dans la vie d'autres. Ces gens qui ne comprenaient pas beaucoup, ben Pierre leur a dit, c'est parce que Jésus est monté tout en haut dans le ciel qu'il a répandu cet Esprit. Et cet Esprit que vous voyez, que vous entendez, ce n'est pas que pour eux, c'est pour vous tous, si vous vous repentez de vos péchés. Ce matin, si vous croyez en ce que vous venez d'entendre, repentez-vous de vos péchés. Et cette promesse sera pour vous. Vous recevrez, vous aussi, dans votre vie, le Saint-Esprit. Et cet Esprit produira tout ce que nous avons vu dans ces versets. D'abord, le refus du monde. Séparez-vous de cette génération perverse. Le refus du monde. Alors, il ne faut pas se séparer de tout le monde et des gens. Mais cela veut dire, parfois, il faut se séparer de certaines personnes. Si, ça c'est sûr, ça peut arriver. Des gens qui vous influencent à boire, des gens qui vous influencent à vous droguer, ou des gens qui vous influencent en mal, dans des mauvais propos et que c'est inarrêtable. Il y a des gens avec lesquels il faut prendre des distances, mais on ne va pas prendre des distances avec tout le monde. Au contraire, quand on devient chrétien, on aime encore plus les gens. Alléluia. Néanmoins, prendre des distances avec leurs pratiques, avec leur mentalité, avec leur façon de faire, leurs propos, là oui. C'est ça, se séparer du monde. On ne peut pas venir à l'église et continuer de vivre comme avant. Mais je vous assure, ce n'est pas impossible, parce que ce n'est pas comme à Babel où les hommes ont construit avec leur propre force. La Pentecôte, c'est par le Saint-Esprit. Et vous pourrez, ou plutôt Dieu pourra construire une nouvelle vie par le Saint-Esprit. Ça ne dépendra pas que de vous, loin de là. Au fond, nous qui sommes chrétiens, nos changements, même encore actuels, parce qu'on change tout au long de notre vie, nos changements actuels, je vous assure, c'est pas parce qu'on est des gens bien et qu'on est assez fort pour s'améliorer. Je n'y crois pas du tout. Quand on dit parfois, faut que je travaille sur moi, c'est un langage de la psychologie, mais ce n'est pas du tout un langage de la Bible. Je ne crois pas du tout au travail sur nous-mêmes. Je crois en la transformation du Saint-Esprit. Je crois en l'action de Dieu dans nos vies. Alléluia. Vous n'aurez pas un travail à faire sur vous-même. Vous aurez simplement, quand Dieu vous éclairera, le reconnaître, vous repentir et demander sa grâce. Et Dieu va vous changer. Alléluia. Dans la Bible, c'est Dieu qui nous change. Ce n'est pas nous qui nous changeons. Alléluia. Alors, après, il est question d'unité. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est vraiment la réponse à Babel. Les hommes sont divisés à Babel, à la Pentecôte. Les gens vivent ensemble dans la générosité, dans le partage, dans la simplicité, dans la louange, dans la reconnaissance. Dieu soit béni. Quelle merveilleuse société. Et le mot de la fin de ce passage, c'est qu'il y a des âmes qui viennent s'ajouter. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Alors, pas les chrétiens des autres églises, mais des gens nouveaux. Ce que nous avons besoin aujourd'hui dans nos assemblées, ce n'est pas que nos assemblées grossissent par des chrétiens d'autres églises, mais c'est que notre Église soit approuvée de Dieu et que son Fils y ajoute des perdus qui y trouvent le salut. Amen. Ça, c'est la vraie croissance. Cela ne m'intéresse pas de récupérer des gens d'autres assemblées. Ce que nous voudrions, c'est que Dieu sauve. Alléluia. Que Dieu étende sa main et que des gens soient touchés. Merci Seigneur. Et je dirais, c'est la conséquence tout cela. C'est la conséquence. Ils vivent ensemble. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Vous savez, dans l'Église, le premier pilier, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que vous me direz, il n'y a plus d'apôtres. L'enseignement des apôtres, c'est quoi? Bien, l'enseignement des apôtres, c'est le Nouveau Testament. Donc l'enseignement des apôtres, aujourd'hui, dans l'Église, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Eh bien, ça, c'est fondamental. Il y a un petit livre qui est sorti, « Comment je dois choisir mon Église ?» C'est un peu triste qu'on doive écrire des livres comme ça, ça veut dire quand même qu'il y a Église et Église. Hein. Et dans ce petit livre, je suis d'accord avec l'auteur, il dit qu'en priorité, une Église dans laquelle il y a l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Gloire à Dieu. Et en conséquence de cette vie ensemble, de cette vie nouvelle, de cette vie de l'Esprit, le Seigneur a ajouté à l'Église. Je ne crois pas aux stratégies d'évangélisation. Je crois que si l'Église vit ce que le Seigneur lui demande, tout simplement, le Seigneur lui ajoutera ceux qui sont sauvés. Amen. Tout simplement. Alors que Dieu nous bénisse et nous aide à vivre, non pas Babel, la confusion, l'incompréhension mutuelle, mais à vivre la Pentecôte, c'est-à-dire l'unité, la louange et l'approbation du Seigneur Jésus qui agira en conséquence. Alléluia. Et que notre Église puisse être pour lui et non pour notre renom. Amen.